à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 12 septembre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En RDC, confusion sur le bilan d'un accident de train dans la province du Tanganyika qui varie entre 10 et 50 morts. Au Nigeria, 9 corps de soldats ont été découverts et 27 sont portés disparus après une attaque contre une base militaire. Le Conseil de sécurité a approuvé la levée partielle de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Aux États-Unis, nouveau débat à Houston ce soir entre les 10 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Bilan contradictoire sur une nouvelle catastrophe ferroviaire dans le sud-est de la RDC qui aurait fait au moins 50 morts selon le gouvernement central à Kinshasa, tandis que le gouverneur de la province du Tanganyika en a annoncé 10 et 30 blessés. Eki Abadou nous en dit plus.
Dans un premier temps, le ministre des Affaires humanitaires du gouvernement central, Steve Mbikayi, a annoncé depuis Kinshasa un bilan provisoire de 50 morts et plusieurs blessés. Le ministre a ajouté qu'il comptait se rendre vendredi sur les lieux du drame dans la province du Tanganyika, à plus de 2000 km au sud-est de Kinshasa. Correction, il y a eu déraillement à Nyunzu, bilan provisoire 10 morts, 30 blessés et 30 wagons couchés, a ensuite affirmé sur Twitter le gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila. Des témoins et survivants joints par la presse avancent un bilan possible d'une centaine de morts. Les déraillements de trains de marchandises sont fréquents en République démocratique du Congo, où ils sont pris d'assaut par des passagers clandestins, faute d'autres moyens de transport. La Société nationale des chemins de fer du Congo est en faillite. Ses agents ont réclamé en février, après l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi, jusqu'à 227 mois d'arriérés de salaire.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à l'unanimité un premier allègement de l'embargo sur les armes décrété en 2013 pour la Centrafrique. Il s'agit d'une demande de longue date de Bangui pour mieux combattre les groupes armés. Bagasikoura nous en dit plus.
La résolution adoptée par le Conseil de sécurité autorise la fourniture d'armes ayant un calibre de 14,5 mm ou moins aux forces de sécurité centrafricaines moyennant une notification préalable d'au moins 20 jours à l'ONU. Celle-ci doit inclure une série de paramètres comme l'obligation de détailler les armes fournies, les moyens utilisés pour les acheminer ou la précision de leur destination finale. En aucun cas, elles ne pourront être revendues ou transférées à des tiers, précise le texte. Une révision du dispositif est possible ultérieurement. Depuis 2013, l'embargo sur les armes était total pour la Centrafrique, même s'il a bénéficié depuis 2017 de quelques exemptions accordées par les Nations Unies, notamment à la Russie et à la France, pour équiper des unités de l'armée centrafricaine en voie de reconstruction.
Dans le nord-est du Nigeria, les corps de 9 soldats ont été retrouvés alors que le sort de 27 autres reste inconnu, a indiqué l'armée. Les soldats ont péri dans une attaque du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Le point avec Jacques Aristide.
Un haut gradé de l'armée nigériane a dit ignorer pour l'heure si les soldats qui demeurent introuvables sont toujours vivants, tandis que les opérations de recherche se poursuivent. Officiellement, l'armée elle-même n'a fait aucun commentaire sur le bilan de l'attaque, mais indique avoir détruit 2 véhicules armés dissimulés sous des arbres dans un raid aérien. Elle ajoute avoir neutralisé leurs occupants. Des combattants d'ISWAP, groupe issu d'une scission de Boko Haram, ont ouvert le feu lundi dernier sur un convoi militaire sur la route entre Damasak et Goudoumbali dans l'état de Borno. Le groupe islamiste affirme avoir fait des dizaines de morts et saisi 10 véhicules militaires ainsi que des armes et des munitions. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest s'est séparé de Boko Haram en 2016. Depuis l'année dernière, il a intensifié ses attaques contre les bases militaires, faisant des dizaines, voire des centaines de morts au sein des forces armées nigérianes.
Dans le nord du Burkina Faso, 2 militaires ont été tués et 5 autres blessés selon le bilan provisoire d'une double attaque la nuit dernière contre des détachements militaires de Baraboulé et Nassoumbou, deux localités de la province du Soum frontalière au Mali. Depuis dimanche, plus d'une trentaine de personnes, civiles et militaires, ont été tuées dans la région sahélienne du Burkina Faso, selon l'état-major général des armées. Les deux attaques simultanées ont été repoussées par les forces de défense et de sécurité, qui ont également entrepris des opérations de ratissage. Le nouveau Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, est arrivé aujourd'hui à Juba pour sa première visite officielle au Soudan du Sud depuis son investiture le 21 août. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Juba est ma seconde maison, a déclaré M. Hamdok à son arrivée dans la capitale sud-soudanaise. Nous cherchons à établir une relation très spéciale et très stratégique entre nos deux nations. Et l'horizon est la seule limite à cette relation, a ajouté le nouveau Premier ministre. À Juba, au cours d'une visite de 2 jours, M. Hamdok doit rencontrer le président Salva Kiir ainsi que des membres de l'opposition soudanaise. La question de la frontière et l'utilisation des infrastructures du Nord pour l'exportation du pétrole sud-soudanais reste source de tensions, mais les relations entre les deux pays se sont considérablement améliorées. Plus jeune État du monde, le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, à l'issue de plusieurs décennies de guerres fratricides.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, nouveau débat ce soir entre les prétendants démocrates à la Maison-Blanche. L'ancien vice-président Joe Biden s'affronte pour la première fois sur un même podium avec la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Les 10 meilleurs candidats à l'investiture démocrate se retrouvent ce soir à Houston, à la Texas Southern University, université historiquement noire. La confrontation la plus attendue est celle entre le leader dans les sondages d'opinion, Joe Biden, et la sénatrice Elizabeth Warren. Ce choc illustre la fracture de vision entre les modérés et les libérales du Parti démocrate, une question centrale de ces primaires. Tous ambitionnent de restaurer ce qu'ils appellent la normalité après le président Trump d'un côté et d'entreprendre d'ambitieuses réformes de l'autre. Bernie Sanders, sénateur du Vermont, défend les idées progressistes du parti, mais devra se démarquer de son ami et allié Elizabeth Warren, qui le distance depuis quelque temps dans les sondages. Le système de santé américain s'est avéré le sujet le plus controversé lors des deux premiers débats. Cela pourrait rester le cas. Le dernier rapport du gouvernement fédéral montrait que le nombre d'Américains sans assurance santé a augmenté l'année dernière pour la première fois en 10 ans. La sénatrice de la Californie, Kamala Harris, et les autres candidats vont essayer de s'élever pour renverser la tendance. 20 candidats se disputent toujours l'investiture démocrate, mais les règles du parti concernant le scrutin et la collecte de fonds ont éliminé la moitié pour ce débat de Houston.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu en Russie ce jeudi pour des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, à l'approche des législatives israéliennes. Il s'agit de sa 3e visite dans le pays depuis le début de l'année. Le 17 septembre, les Israéliens sont appelés aux urnes et M. Netanyahou, qui brigue un nouveau mandat, cherche à s'attirer les faveurs de l'électorat russophone, acquis majoritairement à Avigdor Lieberman. Le ministère russe des Affaires étrangères a demandé des renseignements à Washington via Interpol pour savoir où se trouvait un ancien officiel russe identifié par des médias comme un informateur de la CIA. Des médias américains ont affirmé lundi que la CIA a fait sortir de Russie en 2017 son informateur qui aurait confirmé que Vladimir Poutine avait orchestré l'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Selon selon le quotidien russe Kommersant, Oleg Smolenkov était porté disparu au Monténégro avec sa famille en 2017. Les autorités cubaines ont dénoncé une censure de Twitter après la suspension de nombreux comptes de médias et organismes officiels, dénonçant une opération de Twitter Made in USA pour tenter de faire taire Cuba. Le ministère de la Culture a annoncé que le réseau social avait censuré les comptes de plusieurs vice-ministres et de nombreux autres comptes ont été bloqués. De son côté, le réseau social évoque des violations de ses règles sur les comptes multiples. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle. On en parle avec Nani Talani, bien entendu, dans la Minute Éco. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie. Le Kenya prévoit des coupes brutales dans les dépenses, y compris pour les voyages à l'étranger des membres du gouvernement, afin de réduire le train de vie de l'État. Le ministère kényan des Finances a affirmé que toutes les dépenses non essentielles seront réexaminées afin que le gouvernement puisse réaliser des économies et financer ses programmes sans dépendre de la dette et atteindre ainsi l'autosuffisance. Le Nigeria prévoit d'augmenter la TVA de 7% à 7,2% contre 5% auparavant pour accroître les revenus non pétroliers si le Parlement approuve le projet. L'augmentation de la TVA s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant la hausse des recettes fiscales dans un pays où il est difficile de collecter les impôts à cause de nombreuses petites entreprises qui ne sont pas enregistrées. Le Nigeria vise environ 24 milliards de dollars de taxes cette année contre 17,39 milliards de dollars l'an dernier. Pour terminer, l'Angola envisage d'installer 30 000 systèmes individuels de production d'énergie solaire et de construire une centrale solaire d'une capacité de 600 MW. Pour les autorités angolaises, l'énergie solaire est de plus en plus rentable et constitue une solution pour l'électrification car les systèmes individuels peuvent être installés dans les villages dans un pays où plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le Camerounais Benjamin Moukandjo fait son retour en France.
Oui, libre de tout contrat, après un passage en Chine, l'ancien capitaine de l'équipe du Cameroun s'est engagé en faveur de Lens en Ligue 1. Après avoir laissé filer deux éléments offensifs en toute fin de mercato, le RC Lens a officialisé la venue de l'international camerounais de 30 ans, qui sort de deux saisons en Chine en 2017. Benjamin Moukandjo avait rejoint Jiangsu Suning et avait été prêté la saison dernière à Beijing René. Les Sang et Or n'ont pas dévoilé la durée du bail du natif de Douala, qui va évoluer dans son huitième club en France. Il est entre autres passé par Rennes, Monaco, Reims, Nancy et Lorient.
Le Malien Bakary Sakho rebondit à Chypre.
L'aigle malien de 31 ans s'est engagé pour deux saisons en faveur du Paphos FC, un club chypriote. L'ailier international malien était au chômage depuis la fin de son contrat avec Crystal Palace, passé par Saint-Etienne de 2009 à 2012. Il va connaître le sixième club de sa carrière. En Angleterre, la saison dernière, il n'a disputé que cinq matchs de Premier League, après avoir passé trois mois à West Bromwich Albion en D2.
Les clubs européens sont à l'origine de 58% des transferts.
Les 80 clubs engagés cette saison en phase de poule de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa sont à l'origine de 58% des transferts réalisés cet été, d'après une étude de l'UEFA. Ces 32 clubs en Ligue des Champions et 48 en Ligue Europa ont dépensé près de 4 milliards d'euros en transferts, une hausse de 55% par rapport à l'été 2018, hormis les commissions versées aux agents. L'argent versé par l'UEFA aux clubs participants aux coupes européennes peut représenter, pour quelques clubs, une part très importante de leurs revenus, dépassant parfois la barre des 50%. Les attaquants et les défenseurs ont été les joueurs les plus convoités, représentant 70% de l'ensemble des transferts.
Deuxième flop des Américains, dominé par la Serbie au Mondial de basket.
Et oui, choqué hier par la France en quart de finale, les États-Unis se sont inclinés pour la deuxième fois dans cette Coupe du Monde monde de basket. Dominé un match de classement par la Serbie 94-89, Team USA a subi la domination serbe dès le début de la partie, ne réagissant qu'en fin de match pour adoucir la sentence. Privée du podium, l'équipe serbe peut encore prétendre à la cinquième place face au vainqueur de Pologne-République tchèque. Les Américains de Greg Popovic prendront, eux, le perdant pour la lutte pour la septième place.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Bilan contradictoire en RDC après le déraillement d'un train de marchandises la nuit dernière près du village de Mahimaridi dans la province du Tanganyika. Alors que les recherches se poursuivent sur le lieu de l'accident, le ministre des Affaires humanitaires Steve Mikai a annoncé un bilan provisoire de 50 morts et plusieurs blessés, mais le gouverneur de la province a annoncé un bilan plus faible. Le ministre compte se rendre vendredi sur les lieux du drame à plus de 2000 km de Kinshasa. Eddy Issango a joint M. Mikai au lendemain de la catastrophe ferroviaire qui vient s'ajouter à d'autres accidents très meurtriers en République démocratique du Congo.
Non, alors par rapport, il y a eu le bilan, mais des services différents, différentes sources qui ont des formations contradictoires. Tout à l'heure, je vais travailler avec le Premier ministre qui a plusieurs services pour avoir des précisions. Ce qui est vrai que, et directement à 3h du matin, il y a eu mort d'homme, il y a des blessés. Alors j'ai pris contrôle avant les chiffres en attendant que j'ai pu s'harmoniser et qu'on vérifie sous les wagons pour savoir s'il y a encore des corps.
Certains médias de Kinshasa ont avancé une cinquantaine de morts. Est-ce que ça avoisinerait ou c'est plus que cela?
Non, c'est l'information que j'ai reçue le matin de mes services, mais d'autres services, d'autres informations, je ne vous parle de ça. Alors je dois recouper les recoupements avant de pouvoir donner une position définitive.
Et qu'est-ce qui serait la cause de cet accident?
Je crois pour la cause d'accident, ça, on doit se référer à mon projet de transport. Hein. Moi, je m'occupe des aspects humanitaires.
Et qu'est-ce qui est fait dans ces cas-là pour les victimes?
Déjà, au niveau de la province, le gouverneur s'occupe des victimes. On va voir s'il a besoin de l'appui, d'autres appuis au niveau central ou pas.
Mais en fait, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'accident, c'est face.
Mais dans le monde entier, il y a ce genre d'accident, ce n'est pas seulement chez nous.
Steve Mikai, ministre des Affaires humanitaires du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, focus sur la Guinée à l'occasion de la visite du président Alpha Condé aux États-Unis. Le locataire de Sékou Touré est venu promouvoir la destination Guinée aux investisseurs américains. Mais en Guinée, le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution occupe à nouveau la une des journaux après l'annonce du président de consultation dirigée par le Premier ministre. Le débat sur un possible troisième mandat d'Alpha Condé est-il fondé? Comment faire pour propulser l'économie guinéenne vers l'émergence? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Apple a présenté mardi les nouvelles versions de son iPhone en Californie à l'occasion du lancement annuel de ses produits. Outre les dernières mises à jour et les nouvelles offres, l'entreprise américaine a également attiré l'attention des consommateurs et des critiques sur sa nouvelle stratégie. Richard Green nous en dit plus dans son reportage. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
For our customers.
Pour nos clients en attente de la technologie la plus sophistiquée qui repousse vraiment les limites, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial et je suis ravi de vous le présenter maintenant.
Au siège de la société Apple à Cupertino, en Californie, le PDG Tim Cook a annoncé que les nouvelles versions de l'iPhone révolutionnaire, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, ont désormais un troisième objectif de caméra, ce qui les approche de celles des smartphones rivaux de Samsung et Huawei. Le nouveau modèle offre une puce plus rapide, une plus grande autonomie de la batterie et plus d'options de couleurs. Bien que les appareils semblent similaires au modèle précédent, le changement le plus important provient du système de caméra amélioré. Le système à triple caméra à l'arrière comprend un objectif ultra large capable de capturer une vue panoramique. Le nouveau système permet également de filmer ce que Apple décrit comme la vidéo de la plus haute qualité sur un smartphone. Mais fait surprenant, Apple a fixé le prix de son iPhone 11 d'entrée de gamme à $700 comparé aux $750 de l'iPhone XR de l'année dernière et bien inférieur aux $1000 de l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max offert à $1099. La réduction de prix reflète la tendance récente des consommateurs à conserver leur téléphone actuel bien après l'introduction de nouvelles versions plus chères. Wayne Lam est analyste en technologie.
Vous avez des gens qui viennent de dépenser $1000 pour un téléphone. Ils ne vont pas en acheter un autre avant 2 ou 3 ans probablement. Il s'agit ici de capturer davantage des propriétaires de la génération précédente et ceux qui sont à l'extérieur de l'écosystème iOS.
Pour certains analystes du secteur, les nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo sont essentiellement influencées par la pression exercée sur les concurrents d'Apple en Chine. Nicole Peng est vice-présidente de Canalys.
Je pense tout d'abord que l'accent sur l'appareil photo fait suite à la pression de nombreux fournisseurs chinois qui innovent beaucoup en matière de caméras et de technologies d'imagerie. C'est aussi une bonne synergie entre les autres services introduits par Apple dans l'écosystème Apple.
Tim Cook a également déclaré que toute personne achetant les nouveaux iPhones ou la mise à jour de l'iPad ordinateur de poche recevrait un abonnement gratuit d'un an au nouveau service de streaming vidéo Apple TV Plus qui commence le 1er novembre. Selon Apple, le nouveau service, qui offrira des films et d'autres contenus originaux, sera proposé aux nouveaux abonnés au prix de $5 par mois. Cela le mettra en concurrence directe avec Netflix et d'autres services de vidéo en continu.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
On change de continent pour reparler des futures élections israéliennes. Les citoyens arabes représentent 20% de la population et pourraient avoir un rôle à jouer dans la future coalition gouvernementale. Ils n'ont jamais rejoint un gouvernement israélien, mais certains estiment que c'est peut-être le temps du changement. Voici un reportage de Linda Gradstein, correspondante VOA à Jérusalem. Le récit est de Lionel Gaïma.
Lors des dernières élections israéliennes, il y a à peine 5 mois, près de la moitié des citoyens arabes ont voté. Leur représentation à la Knesset, le Parlement israélien, est passée de 13 membres en 2015 à 9 actuellement. Mais certains partis arabes espèrent remporter plus de sièges avec une liste commune lors des élections de la semaine prochaine. Ahmed Tibi, membre de la Knesset, est numéro 2 sur cette liste commune.
Notre message à notre communauté en tant que liste commune est « Allez voter ». Allez voter pour avoir de l'influence. C'est votre droit, surtout le jour des élections, pour changer notre réalité.
Youssef Yabarin, autre membre de la Knesset, estime que le vote arabe est crucial pour empêcher Benjamin Netanyahou de former un gouvernement d'extrême droite et d'adopter de nouvelles lois qui, à son avis, seront discriminatoires à l'égard des citoyens arabes d'Israël.
Going ahead with racist and discriminatory legislation.
Continuer la législation raciste et discriminatoire que ce gouvernement a menée ces dernières années et va continuer de faire s'il en a le pouvoir. Tout siège supplémentaire va affecter la composition de la Knesset et pourrait empêcher Netanyahou de mettre en place un gouvernement d'extrême droite.
Benjamin Netanyahou a nié à plusieurs reprises les accusations de discrimination contre les Arabes. Il cite pour exemple le nombre croissant des citoyens arabes dans les universités israéliennes et leur représentation à la Knesset. Les partis arabes n'ont jamais fait partie d'une coalition gouvernementale en Israël.
Je pense que cette déclaration est importante, motivée et motive déjà les électeurs arabes.
Cela ouvre l'esprit de certains dirigeants juifs qui pourront dire « Nous avons un partenaire dans la communauté arabe et nous verrons de plus en plus de coopération politique entre juifs et arabes dans le futur. »
Mais le responsable de la liste commune, Ayman Odeh, a récemment suscité la controverse en disant que, sous certaines conditions, cela pourrait changer.
Direction le Maroc pour parler sport, où la National Basketball Association, la fameuse NBA, a noué un partenariat avec l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, visant à élargir les programmes de la Ligue Junior au Maroc et au Rwanda. Pour lancer cette initiative, un terrain de basketball a été inauguré. Un événement marqué par la présence d'une légende du basket, l'ancien joueur Ray Allen. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
C'est à Kourikba, cité minière, considérée comme la plus importante zone de production de phosphate au monde, qu'a été inauguré ce terrain de basketball dans le cadre d'un partenariat entre la NBA et l'OCP. Des centaines de jeunes de la ville se sont retrouvés pour profiter d'un événement riche en activités. Performances de danse hip-hop, de musique traditionnelle, mais surtout de basketball. Pour l'occasion, une superstar du basketball, Ray Allen, a fait le déplacement, ravi de cette initiative et heureux de rencontrer les jeunes de la ville.
Il suffit de mettre en place le programme, à commencer par la NBA Afrique, avoir la Ligue, là où les enfants peuvent assister au basketball quotidiennement. Et je pense que vous allez avoir d'autres initiatives. Beaucoup d'entraîneurs des universités viennent en Afrique parce qu'ils savent que le continent regorge de talents, et ce, depuis plusieurs années.
À travers ce partenariat, l'OCP renforce son programme Act for Community, qui propose à ses employés de s'impliquer dans des projets de volontariat touchant à la communauté. Kamel Tidarine, employé de l'OCP, est géologue et volontaire pour Act for Community.
L'OCP a initié cette Act for Community. C'est une initiative qui permet à l'employé d'avoir des jours d'emploi pour les utiliser dans des actions citoyennes. Et aujourd'hui, donc, on est en train de lancer donc, un grand projet qui est une collaboration entre le NBA et l'OCP, et qui va viser donc à promouvoir la pratique du basket pour les jeunes de la région et essayer de découvrir des potentialités et de les travailler afin de produire donc des talents à haut niveau.
Une initiative qui fait le bonheur des jeunes ravis d'avoir un lieu pour se retrouver autour du sport.
Ça m'a beaucoup plu d'être ici. Je ne pouvais jamais imaginer rencontrer les super joueurs de basketball.
Les enfants de Kourikba vont pouvoir jouer et montrer leurs talents.
Ce partenariat s'étendra à différentes villes du Maroc, notamment Benguerir, et également sur d'autres pays du continent. Au total, la NBA prévoit de toucher plus de 51 millions de jeunes cette année, dans 75 pays par le biais de la Ligue.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la console, Nashran Calais. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les